Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeu vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu?
Bonjour à tous, bonjour mes canafis. Ça va et toi?
Ça va, alors moi pas de petit chat dans la gorge. Et toi, il revient toutes les semaines?
Tous les jeudis, hein, je suis un chenil. Voilà.
C'est pas des chiens les chenils?
Si. Un chenil?
Ouais, un chenil. Donc voilà, à chaque fois quand on prépare un petit peu, là, tu fais tes vocalises.
Le chat est présent, mais pourtant j'essaie de boire.
Fais gaffe, t'as déjà fini ton mag.
C'est vrai.
Et tu n'as bientôt plus rien. Et on a
commencé à parler.
À peine commencé l'émission. Au programme de cette émission, alors tu vas commencer, Nico, avec une première chronique qui fait un petit peu un retour sur géant, sur une chronique précédente de l'année dernière où tu nous avais parlé de l'industrie qui était en panne. Cette fois, c'est les AAA.
Ouais, alors c'était l'industrie en pause en fait.
En pause.
J'ai vérifié, donc c'est pas exactement la même chose. On parlait de cette période un peu de latence en attendant que le rachat d'Activision Blizzard soit validé ou Sony n'annonçait pas ses prochains jeux, Sony ne
qui était chamboulé par une grosse actualité de
ouais,
rachat.
Il y avait une espèce d'attentisme en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'on a vécu après coup une année 2023 de ouf, on en a parlé en termes de qualité de jeu et de quantité de jeux. Et là on va se poser des questions, bah justement, est-ce que cette année-là c'est pas un peu une anomalie? Est-ce que le AAA finalement n'est pas en danger, son modèle économique en tout cas?
Donc n'arriverait pas en bout de course? Et dans la seconde partie, c'est moi qui vais vous parler cette fois des AAA aussi, mais la façon dont on les développe, dans la façon dont ils sont créés par les studios, et je pense que ça pourra faire un truc un petit peu couplé avec, avec ta chronique.
On devrait bien se compléter normalement.
Vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3, mais avant c'est les retours sur The Last of Us part 2. Alors The Last of Us, on vous a parlé en long, en large et en travers dans un épisode EX exceptionnel, dans lequel on va analyser un petit peu l'ensemble du jeu, et là le titre revient de la part 2 dans une version remastered. Alors ce qui nous intéresse, c'est pas tant cette version remasterisée, mais c'est les quelques bonus qu'il y a à l'intérieur.
Ouais, c'était l'un des biscuits en fait qui donnait envie pour ceux qui connaissaient déjà le jeu par cœur, donc en plus du mode survie un peu roguelite, en plus des bonus un peu à la con comme le mode guitare libre, il y avait surtout un contenu niveau abandonné, donc c'est on nous promotait un espèce de making of en fait. Donc de restituer des niveaux qui n'avaient été virés en fait du développement, donc pas inclus dans la version finale, et justement d'avoir ce petit côté un petit peu making of où tu pouvais te balader dans ces niveaux avec des commentaires de dev qui t'expliquaient un peu des trucs cool. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc on a accès à 3 niveaux en fait différents. Okay. Alors s'ils sont à différents stades de finition, donc évidemment ils appuient beaucoup là-dessus pour dire c'est pas dev, il y a des animations qui marchent pas, des décors qui sont pas finis, donc
au cas où on le verra pas.
D'inquiétude là-dessus. Donc à chaque fois, t'as Neil Druckmann qui va te faire une petite remise en contexte. Ce niveau, il se plaçait à tel moment du jeu, etc. Et donc voilà, tu te retrouves dans le niveau et donc tu vas pouvoir te balader comme dans le jeu classique, en mode TPS, tout ça. Et tu vas avoir des petites bulles d'interaction à différents endroits. Et à chaque fois, tu vas déclencher un commentaire audio d'un membre de l'équipe de dev.
Ça me fait penser à quelque chose tout ça.
À quoi donc?
Avec quelque chose que tu nous as parlé la semaine dernière, cette mode du documentaire karatéka,
exactement,
tout ça.
Exactement, mais carrément, encore une nouvelle manière de le mettre en scène. Et du coup, on va te dire, écoutez, là, on voulait faire ça, ça servait à tel truc, tel propos, tel machin, et on l'a enlevé pour telle ou telle raison.
Il y a du biscuit?
C'est intéressant, c'est très cool. Je trouve le premier niveau est le plus intéressant, parce que c'est un niveau ouvert, et on va dire, c'était dans la ville du début du jeu, en fait, de Last of Us, Jackson. Alors c'était, chronologiquement, c'était une scène qui se passait juste avant le bal, le fameux bal qu'on connaît bien dans le scénario, mais cette scène, en fait, c'était un flashback qu'on débloquait bien plus tard dans le jeu, en fait.
D'accord.
Et donc c'était un mode un peu ouvert, une espèce de kermesse, en fait, et tu pouvais avoir plusieurs interactions. T'avais en fait leur idée, et que je trouve qui était rigolote, donc c'est que t'avais déjà joué au jeu pas mal de temps en fait, et c'était de te faire revisiter toutes les mécaniques du jeu, donc tout ce qui était action, côté infiltration et tout, mais d'une manière ludique en fait, c'est-à-dire que l'action, t'avais un jeu où tu jettes une des boules, c'est sur des canettes pour les faire tomber. Ils voulaient reprendre l'interface, c'était de là où tu upgrades ton gun et tout, et c'était pour créer des cocktails en fait, genre t'es dans un bar, tu crées ton cocktail avec des alcools et tout.
C'est sympa, c'est détourné quoi.
Et t'avais un mini jeu qui est trop mignon et tout, c'est des petits qui jouent aux claqueurs en fait, à se faire peur. T'en as un qui est le claqueur, c'est qui doit attraper les autres, et donc là c'est toi qui joues, donc t'as le détecteur d'audio comme les claqueurs ne voient pas et entendent, donc c'est, je trouvais ça plutôt pas mal. Après ils l'ont supprimé pour des questions de rythme et tout, donc ils expliquent tout ça, donc
super,
c'est plutôt cool. Le hic en fait, c'est que chaque niveau ça se fait en 10-15 minutes max en fait, donc
c'est pas un gros docu quoi.
C'est pas un gros docu, ça te prend moins d'une heure au global, donc moi je pense que rien que ce point-là ne justifie pas de repasser à la caisse, à mon sens.
Voilà, faut pas l'acheter pour ça.
Même si c'est intéressant. Après, on sait que les fondus de Last of Us, on en connaît quelques-uns. L'ensemble de ces nouveautés, en fait, que ce soit le mode survie, ce mode niveau abandonné, ça justifiera de payer les 10 euros de mise à jour pour si t'as la version PS4 en fait, pour avoir la version PS5. Et après, bon, de toute façon, si vous avez pas fait le jeu du tout, que vous connaissez pas, bah, oui, c'est la meilleure version à ce jour technologiquement et tout. Donc foncez, Last of Us 2, c'est une dinguerie, quoi. C'est un jeu exceptionnel, quoi. Donc
ils en gardent peut-être sous le pied avec un documentaire à venir.
Ouais, mais c'est un peu dommage parce qu'ils te vendent la bande-annonce du docu. Ça aurait été cool de l'avoir dedans. Ils te renvoient vers les podcasts qu'ils ont fait sur Last of Us, qui étaient très cool, mais qui datent de l'époque jeu du temps jadis, qui sont déjà accessibles gratos depuis un bail.
Ouais, sur toutes les applis de podcast, si vous avez pas, vous êtes pas obligé d'acheter cette version, et ils sont vraiment excellents, doublés en français par les doubleurs des jeux.
Alors, j'ai pas essayé le mode survie, donc là aussi, on a une espèce de roguelite. L'actualité est fait qu'il passe après God of War Ragnarok, qui proposait ce mode-là, de ce que j'ai compris, qui était mieux fait chez God of War, et gratos en plus, donc.
Okay.
Voilà, c'est un peu dommage là-dessus, mais voilà, ça nous permet d'avoir cette version. Bah voilà, si vous n'aviez pas le jeu avant, bah, vous avez accès à la meilleure version aujourd'hui, quoi.
C'est l'occasion. Et si vous voulez en savoir plus sur The Last of Us, nous avons un petit livre de Nicolas Denechaud, qui est dans l'actu parce qu'il vient aussi de publier son livre chez nous sur Alone in the Dark.
Tout à fait.
C'est un excellent bouquin, The Last of Us. Donc franchement,
voilà, qui est placé en fond. Voilà, c'est du subliminal comme on fait dans les vidéos.
Pour ceux qui nous regardent en vidéo,
voilà, vous dites ah tiens, j'ai envie d'acheter ce livre.
Mais est-ce que c'est un podcast? Mais est-ce que je peux les voir? Mais oui, vous pouvez nous voir sur YouTube et Spotify.
En vidéo.
Nico, c'est à toi. J'ai une question à te poser. Est-ce que les AAA sont en panne?
C'est une excellente question. Alors, c'est vrai que l'intitulé peut faire un peu peur, hein, parce que, je l'ai dit, on a vécu l'année 2023 de folie question sortie de jeu. Mais comme d'hab, est-ce que c'est par l'arbre qui cache la forêt? Est-ce qu'une crise du AAA ne couvrait pas dans les coulisses, hein? On va se poser la question. Pour commencer à en parler, on va utiliser un petit peu l'exemple des PlayStation Studios. Alors, pas pour les pointer du doigt, hein, mais parce que la PlayStation Studios, en termes de AAA, quand même, on peut dire qu'ils savent faire et qu'ils ont un palmarès qui est plutôt pas dégueulasse sur les dernières années. Donc, on va commencer par Naughty Dog, on vient d'en parler avec Last of Us. Et on peut pas dire que ce soit vraiment la fête, en fait, hein, parce que on a eu leur projet Last of Us multijoueur qui a été annulé tout récemment. Donc là-dessus, c'est quand même un petit peu dommage. Et à ce jour, hein, les deux derniers projets du studio en date, c'est le remake de Last of Us 1 et ce remaster de Last of Us 2 dont on vient de parler. Alors, on sait qu'évidemment, ils bossent sur la suite, hein. Il y avait Neil Druckmann qui disait que ils voulaient un petit peu faire évoluer leur façon de faire, qu'ils s'inspirent un peu de Dark Souls pour la suite. Alors, pas pour le côté combat super dur, mais pour le côté narration peut-être un peu plus diffuse, un peu plus environnementale, tout ça. Donc, mais malgré tout, on sent quand même que le studio, enfin, en tout cas, dans les infos qui nous parviennent, a plutôt le regard tourné vers l'arrière que vers le futur, hein. Last of Us 2, alors ça a été mon moment coup de barre de ouf, coup de barre et coup de vieux.
Coup de barre ouf.
Il va fêter ses 4 ans. Donc cet été, c'est un truc de ouf, chaud, ça passe ultra vite. Et à ce jour, en fait, on n'a aucune idée de ce qui pourrait être le prochain jeu du studio. Il faut savoir qu'il y avait eu 3 ans d'attente entre Last of Us 1 et Uncharted 4, et 4 ans entre Uncharted 4 et Last of Us 2. Donc là, on devrait presque être en attente de la sortie de leur prochain jeu, alors qu'on ne sait même pas ce que c'est, quoi.
C'est fou.
Donc, chez le studio aussi, il n'y a pas eu de nouvelle licence créée depuis 2013, donc plus de 10 ans.
Ouais.
C'est vrai qu'avant, on avait l'habitude qu'ils se renouvellent avec des nouvelles licences fréquemment. Là, ils tournent sur les deux mêmes licences. Et pour l'info, je parlais de 4 ans d'attente. 4 ans, ça représente l'ensemble du cycle Crash Bandicoot à l'époque de la PS1.
Ah ouais,
donc la sortie des 3 premiers jeux plus du Crash Racing. Ouais. Et également aussi, 4 ans, c'est l'ensemble du cycle Jack and Dexter chez Naughty Dog. Donc là, pareil, 3 jeux plus le jeu de Vago. Ça montre un peu comment les choses ont évolué et ont changé, quoi.
C'est clair.
Alors évidemment, je suis pas là pour dire que les devs de Naughty Dog, hein, c'est des gros nuls, hein, évidemment. On sait que, déjà, ils font des jeux, leurs derniers jeux sont exceptionnels, on va pas se le cacher.
Pas mal.
Et que voilà, Sony leur a aussi peut-être foutu les bâtons dans les roues, hein, avec ses projets de jeux service qu'on leur a peut-être imposés, on sait pas trop comment ça se passe. Et aussi qu'on sait que développer une nouvelle licence aujourd'hui, c'est compliqué. Et c'est, voilà, ça demande du temps, ça demande des recherches. Je crois que peut-être on nous en parlera tout à l'heure. On peut aller voir aussi chez Santa Monica un studio, donc qui eux, bah pour le coup, c'est God of War. À part le tout premier jeu du studio, c'est un jeu on se rappelle même plus, hein. Ils ont fait que du God of War en fait depuis qu'ils existent. Alors on sait que Corey Barlog nous a dit qu'ils avaient un projet de nouvelle licence aussi dans les tuyaux. On supposait que c'était peut-être de la SF, tout ça.
Oui.
Aujourd'hui, on n'a rien vu.
Naughty Dog aussi, on supposait que c'était de la SF dans l'espace. Je pense que c'est ce qu'on a.
Il y a des convergences.
Est-ce que c'est des fantasmes.
On va voir. Mais ça a l'air délicat de se concrétiser en tout cas. Et ce qui est le plus difficile, en fait, c'est qu'on met en regard cette ère PS5 avec l'ère PS4 qui, pour le coup, elle s'avérait d'une richesse et d'une variété de ouf.
Oui.
Rien qu'en termes de nouvelles licences, on peut citer la naissance, je sais pas, des Horizon, Ghost of Tsushima, Days Gone, Spider-Man version PlayStation Studios. On peut même mentionner Death Stranding, hein, qui est une sorte de seconde partie, hein, mais qui est pas une licence en interne. Et maintenant, en fait, on est plutôt dans l'arc un peu des suites, en fait, déclinées. Donc, t'as Horizon 2, Spider-Man 2. Et j'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses, mais que ces suites-là génèrent un petit peu moins d'attrait que les épisodes originaux, tu vois. Horizon 2 avait peut-être un poil déçu, le Spider-Man 2... Bah, il s'est peut-être fait un peu oublier dans la litanie de AAA de l'an dernier.
Ouais, clairement. Et ça, c'est clairement lié à la conjoncture et à la façon dont les jeux sont développés et le pourquoi ils conservent une grande partie de l'antériorité du premier titre vers la seconde. Et on va dérouler tout ça dans la seconde partie de la chronique pour expliquer pourquoi il y a ce sentiment un peu de... Je l'ai déjà vu, c'est moins choquant, c'est moins étonnant, il y a moins d'adhésion. Bah,
en tout cas, ça se comprend.
Ça se comprend. En tout cas, pour ceux qui suivent, comme vous et nous, l'industrie, on a envie de cette nouveauté, tout ça, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde.
Oui, tu nous diras. On va prendre un autre exemple, pour pas taper que sur les mêmes personnes, et on va aller du côté du Japon. Alors, peut-être que Ken va me censurer, mais on va parler de Capcom.
Il va débarquer avec un coup de pompe dans la porte.
On l'a dit, Capcom, c'est un peu un des tueurs du monde. Les mecs, ils enchaînent les bons coups. Niveau finance, ça va chaque année, ça progresse. Et ils continuent quand même à innover. Il y a du Dragon's Dogma 2 qui va arriver. On a Exo Primal qui est sorti l'an dernier. En attendant, Pragmata, donc qui s'annonce comme une nouvelle licence. Mais récemment, il faut aussi quand même dire que ils s'assurent, on va dire, un plancher minimal, souvent à partir de remakes. Mm-hmm. Les Resident Evil, au premier rang, on a eu quand même 3 remakes de gros Resident Evil récemment, qui sont excellents et qui cartonnent, donc tout le monde est content, mais ça reste quand même du remake.
Oui.
On a aussi eu des Ghost Trick qui est revenu, par exemple, récemment, des compiles Phoenix Wright, des compiles Megaman, donc on voit quand même que la mise en avant du patrimoine, ça reste quand même un part importante du business.
Belle stratégie, du coup, je trouve.
Et côté AAA, comme on l'a dit, il y a quand même eu tant de choses, mais majoritairement, ça tourne autour des deux grosses licences maison les plus vendeuses, donc Resident Evil et Monster Hunter, avec une alternance. Donc c'est quand même plutôt un beau programme, du neuf et du vieux, mais on voit que t'as quand même une base qui se focalise autour de la mise en avant du patrimoine et aussi du remake, tout ça quoi. Donc on voit que tu peux pas non plus faire ce que tu veux, n'importe quoi. L'idée de cette chronique, en fait, elle m'est venue quand j'ai vu des déclarations de Sean Layden sur Twitter. Alors Sean Layden, si vous vous rappelez plus, c'était l'ancien boss de PlayStation USA et l'ancien boss des PlayStation Studios, donc un mec qui sait de quoi il parle, et on a cru comprendre qu'il est parti de chez Sony un petit peu fâché. Alors parti apparemment peut-être pas de son fait,
plein de gens qui sont partis,
et ça fait partie de cette vague de renouvellement qu'a eu entre la PS4 et la PS5. Et lui, il est plutôt critique, en fait, de ce qui se passe aujourd'hui. Donc il a signalé dans son tweet qu'on allait largement, à son avis, entendre parler de la question de l'inflation du budget des AAA sur l'année 2024. Et je pense que lui a des infos, évidemment, qu'on n'a pas, quoi. On l'a vu, par exemple, avec le Spider-Man 2, justement, on en parlait. Le leak d'Insomniac a révélé que le budget du jeu dépassait, a priori, les 300 millions de dollars. Donc, je crois qu'on était sur 320, 330, ce qui est gigantesque.
Sans marketing?
A priori.
Après, ça, c'est gigantesque.
Donc, c'est colossal. Et certainement parmi les plus élevés des budgets qu'on a eu dans le jeu vidéo, hors jeu Rockstar, hors Cyberpunk 2077, sur les exemples récents, quoi.
Oui. Parce que Rockstar, on sait pas tout simplement, mais oui, hormis eux, c'est clair, c'est le plus gros.
Et donc là, on se situe dans un ordre de grandeur qui est équivalent à celui du film qui a eu le plus cher de l'année, donc qui était Fast and Furious 10, qui était aussi dans ces eaux-là. Donc, on a eu un temps où on disait, ah là là, les jeux vidéo, maintenant avec des budgets qui sont presque au niveau du cinéma, mais en fait, cette époque, elle est révolue, C'est-à-dire que les budgets du jeu vidéo sont équivalents, voire supérieur au cinéma. Donc le plus gros budget ciné, c'est l'équivalent du plus gros budget certainement jeu vidéo de l'année. Donc là-dessus, il faut vraiment voir où on se situe, quoi. Et donc 2023, on sait que dans le cinéma, ça a été une année très compliquée pour les blockbusters. C'est vrai qu'on parle du cinéma de super-héros qui est en baisse, mais c'était pas que, en fait.
Blockbuster est au-delà de franchise.
On va dire, en gros, que tous les budgets supérieurs à 200 millions, là où tu passes dans la catégorie, comme tu l'as dit, des grosses franchises, des jeux, des films d'été qui doivent ramener plein de pognon, a priori, on estime que seul Gardien de la Galaxie 3 aurait été rentable suite à sa sortie ciné. Alors, on sait qu'au cinéma, t'auras une nouvelle vie avec les Blu-ray, avec les VOD, avec l'arrivée sur des plateformes de streaming. Mais en termes de sortie ciné, un seul film sur plus d'une dizaine, on peut dire que c'est aussi alarmant. Donc, on voit que dans le cinéma, ce problème-là d'inflation et de manque de retour sur investissement, se pose aussi un petit peu. Donc, là, on a toujours cette convergence qui est intéressante, quoi. Et pour revenir aux jeux vidéo, on pourra dire qu'en 2023, des jeux comme Starfield ou FF16 n'ont pas été les locomotives attendues de l'industrie. Là aussi, c'était des jeux qui sont censés tirer l'industrie vers le haut, des jeux qui coûtent extrêmement cher, et finalement qui ont eu un impact peut-être moindre que ce qu'on imaginait, quoi. Cyberpunk, pour parler de lui encore une fois, lui, il a eu besoin de 3 ans pour trouver un peu sa forme finale, tu vois, comme on dirait dans Dragon Ball. Donc 3 ans, c'était parce que il est sorti en fait beaucoup trop tôt, on l'a dit, Rosy. Et aujourd'hui, on peut dire, aujourd'hui, t'as accès à la version un peu définitive du jeu, ça a pris 3 ans de plus post-sortie, quoi. C'est un truc de ouf, quand même.
Oui, ce qui veut dire qu'en fait, le temps de développement, il est pas tant de 5-6 ans, mais il est plus de 8-9 ans. Enfin,
on était au, au ré- réel. On parlait d'un early access, on était presque sur une démarche un petit peu pareille. On sait que Baldur's Gate aussi a eu des années de early access.
On a eu deux, je crois.
Et c'est vrai qu'on en parle souvent, mais les jeux Sony, ces AAA dont je parlais au départ, ils ont un petit peu vrillé notre compas, en fait. C'est-à-dire que, ils entraînent des comparaisons qui peuvent être un petit peu bancales avec d'autres AAA parce qu'ils ont justement ce niveau de peaufinage et de budget qui est presque hors norme dans l'industrie. Et c'est vrai que par exemple, un jeu comme Jedi Fallen Order, à l'époque quand il est sorti, je me disais, ah, il y a des petits trucs qui vont pas, des petites animations qui foirent. Et en fait, non, ça, c'est un AAA d'aujourd'hui, en fait. C'est juste qu'on a des jeux qui ont vrillé notre cerveau et que, du coup, ils rendent la comparaison un petit peu difficile. Starfield aussi, a souffert de ce côté, voilà, l'animation des visages un peu cheap, manque de séquences de liens dans les animations. Enfin, alors que non, Starfield aussi, c'est un gros AAA qui tâche du jeu vidéo, mais voilà, t'as d'autres jeux qui créent un espèce de décalage, quoi. Et dans cette configuration, en fait, les jeux, notamment Sony, c'est qu'ils doivent atteindre des paliers de vente qui sont complètement démentiels pour atteindre juste l'équilibre, et c'est des chiffres qui feraient rêver n'importe quel studio en termes de vente. Donc là, c'est une estimation, mais Red Dead 2, les analystes financiers ont estimé qu'il devait au moins dépasser les 20 millions de ventes avant de commencer à gagner de l'argent. Donc c'est un truc de ouf.
Ouais, parce qu'ils estiment le budget à 800 millions.
20 millions de ventes, c'est-à-dire que Assassin's Creed, il fait 20 millions, Ubisoft, ils font des communiqués et ils dansent tous, ils font un flash mob géant sur Internet. Quoi, donc.
Ouais, voilà, c'était 25 quand ils avaient, ils étaient comme des fous. Quoi.
C'est donc le plus là, 20 millions, c'est ton seuil de rentabilité. Quoi. Donc c'est-à-dire qu'il suffit que tu te plantes une fois, t'es mort. Et là, en plus de la pression de dev financière, la pression des joueurs, t'as la pression supplémentaire de dire « je n'ai pas le droit à l'erreur ».
Tu peux pas.
Et donc, moi, j'entrevois même des risques pour des Sony, par exemple, qui a une large panel de studios sous sa coupe, de commencer à lorgner vers un modèle à la Activision, c'est-à-dire que au fur et à mesure, toutes tes équipes et toutes tes ressources vont converger vers un seul gros projet, le gros projet massif qui apporte de la thune. On sait que chez Acti, Call of Duty, au fur et à mesure des années, il a intégré toutes les équipes parallèles de Activision, pas que les équipes dédiées au Call of. Et tout le monde, en fait, travaillait sur Call of pour arriver à faire, voilà, c'était lui qui faisait bouffer tout le monde. Et donc, tous les studios se retrouvaient à faire du Call of et à laisser tomber leur ambition de jeu autre ou leur licence forte.
C'est le cas de Rockstar aussi, qui a fûté un temps sorti un jeu par an par studio. Et comme tu dis, avec les enjeux grandissants, pas le droit de se rater. Ils ont focalisé sur Red Dead puis GTA et tout le monde était au charbon sur la même licence.
Et on voit qu'un Days Gone, par exemple, sorti sur PS4, a priori, là aussi, selon les estimations et quelques leaks, il aurait atteint pas loin des 10 millions de ventes si on cumule la sortie console et PC. C'est quand même pas dégueulasse, hein.
10 millions pas, mais c'est pas pire.
Et on sait que la possibilité d'un Days Gone 2 a été kill par Sony parce que pour eux, c'était pas suffisamment rentable.
C'était pas suffisant,
Et quand on voit que l'équipe de dev a méga le seum et tout, je pense qu'on peut comprendre pourquoi. Parce qu'ils ont quand même fait du bon boulot et qu'ils ont atteint un palier assez élevé. Et il y a le risque, justement, que ces studios plus petits, comme Sony Band, se retrouvent finalement à devenir des studios de support pour aider au prochain Naughty Dog, pour aider au prochain Santa Monica Studio.
C'est ça.
Parce que t'auras une espèce de convergence de ces studios-là. Et créativement, c'est un appauvrissement qu'on peut déplorer. Donc maintenant, c'est quoi la solution? On voit qu'il y a cette inflation qui part dans tous les sens. On peut appeler peut-être à la décroissance. C'est vrai que c'est un terme qu'on entend régulièrement aujourd'hui dans différents pans de la société. Est-ce que c'est nécessaire? Et là, pour une fois, on va parler d'Ubisoft, mais pas en suiveur de tendance, mais plutôt en précurseur. Alors, on va se demander, mais vous allez voir que c'est pas tellement le cas. Mais on a eu les deux cas récents de Prince of Persia Lost Crown et de Assassin's Creed Mirage, qui étaient des jeux qu'on j'appelle un peu dégonflé par rapport aux jeux habituels, c'est-à-dire qu'il y avait des scopes peut-être un peu plus réduits, deux jeux qui ont plutôt séduit, a priori, et qui ont même suscité de la part des joueurs un côté « Ah, Ubisoft revient à quelque chose d'un peu plus, light, c'est cool, ça faisait plaisir, en fait, c'était devenu presque un argument de vente ». Alors, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, ces deux projets-là, c'est plus des accidents, en fait, circonstanciels. C'était pas une volonté affirmée d'Ubisoft de faire de la décroissance.
Oui.
Mais en tout cas, si ces deux jeux fonctionnent, ça peut peut-être donner des idées à tout le monde, quoi.
Oui, bien sûr. Mais c'est pas ce qui va, je pense, pérenniser et faire vivre Ubisoft. Il faudrait, pour remplacer un Assassin's Creed, combien de Prince of Persia, combien de Mirage? Ils ont encore besoin, Ubisoft, d'une locomotive gigantesque, comme Sony a besoin de grosses locomotives, parce que y a trop de charges, il y a trop d'employés, ça coûte trop cher. Et pour remplacer ça, il faudrait faire ce qu'on appelle du volume, et des Prince of Persia, des Mirage, il faudrait en sortir peut-être, je sais pas, 10 fois plus. Et donc là, il faudrait que tout se marche de façon équivalente. Et ce qui est intéressant peut-être, c'est de regarder en 2022 ce qui s'est passé avec Square Enix. Ils ont tenté de faire ça, de faire des jeux plus petits, ramassés au niveau du scope, mais tenter le volume... Je crois qu'ils ont arrêté. Mais c'est parce que c'est plus compliqué parce que évidemment en essayant 10 fois, tu vas peut-être attraper une fois ou deux des belles surprises et là tu vas choper vraiment beaucoup de joueurs, mais absolument pas l'équivalent.
Sur 10, tu peux pas faire carton plein, quoi.
Tu peux pas. Et c'est surtout la mesure du succès qui est demandée. Là, tu parlais des jeux Sony, un minimum de 20 millions, c'est Assassin's Creed. C'est peut-être pas ça, mais c'est pas loin. Ils ont besoin d'avoir des. Donc moi, je pense que c'est pas une solution parce que l'inertie aujourd'hui est trop importante. C'est que Ubisoft, comme Sony ou comme tous ces gros studios, ils sont maintenant emportés par des charges structurelles qui sont gigantesques.
Mais on peut aller que vers le plantage, du coup, selon toi?
Ben, je sais pas, tout à l'heure, on parlait du cinéma avec, des crises à Hollywood, du crise du blockbuster, qui on en a déjà connu deux, des grandes crises du blockbuster à Hollywood. Dans le jeu vidéo, c'est pas encore arrivé. Je pense qu'on y est là. On va très prochainement, ça va craquer. Je sais pas où, si ça commence déjà avec, les licenciements, mais il va y avoir une crise créative, on va y revenir. Mais on est en passe là.
Ben, on risque le côté, comme on parle de consolidation dans l'industrie, imagine Ubisoft se plante sur ses deux gros prochains assassins.
C'est une galère.
La bourse qui baisse, et du coup, une proie pour te faire acheter.
Oui, bien sûr.
Si c'est des projets que tu avais pas vendu suffisamment de Cyberpunk, tu te retrouves le bec dans l'eau et tu te fais racheter. Enfin, il y a le risque aussi de cette consolidation qui est à l'œuvre dans le jeu vidéo et depuis des années. Donc,
Il y a des anomalies, et la plus grande, enfin Sony c'en est une, mais la plus grande c'est Rockstar, qui lui casse le compas complètement. Hein, c'est que Red Dead 2, c'est quoi, 6 ans maintenant? 5 ans? 2018?
Ouais, 2018, ouais, c'est ça.
Ils plantent encore, enfin, ils surpassent encore tout le monde aujourd'hui parce que c'est une anomalie de développement. Ils ont mis un budget de fou, tout ça. Mais il n'y a pas de, comme on dit en anglais, les too big to fail. Même Rockstar peut se planter. Là, ce qu'ils sont en train de mettre en place pour GTA 6, si GTA 6 fait pas, peut-être, 50, 70 millions de ventes, ça peut mettre en péril. Enfin, on sait pas.
Et ça rejoint les rumeurs aussi, on va en parler, mais voilà, il y a certaines rumeurs qui disaient GTA 6 va coûter 100 € ou GTA 6 va être proposé avec des briques de solo qui vont s'étaler sur le temps. Ça serait cohérent là-dessus parce que, en fait, c'est tout le modèle du business du jeu vidéo en creux qui se voit questionner et qui doit évoluer, en fait. Hein. On sait que le prix des jeux et les parcs installés globaux de génération de machines, ils ont pas tant évolué depuis des décennies. Et donc, on voit des déclarations comme celle d'un des pontes de Capcom qui disait il faut augmenter le prix des jeux parce que le budget des développements ont explosé. Quoi.
Oui.
Et à mon sens, c'est vrai qu'on arrive en parallèle avec l'émergence du modèle d'abonnement, hein, donc notamment Game Pass, et comme on le voit un petit peu partout ailleurs, quoi. Et on avait au cœur du jeu vidéo cette politique de l'exclusivité qui était l'arme principale du constructeur pour faire acheter sa console aux gens. Et je pense qu'il y a une bonne stratégie parce qu'évidemment, tu veux proposer du contenu, non pas les autres, du contenu différenciant, donc ça va justifier que les gens viennent vers toi. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus parce que ces exclus-là, en fait, elles sont toujours au cœur de l'équation, mais elles coûtent de plus en plus cher. Et vu que la concurrence s'affirme, ça devient de plus en plus compliqué de les rentabiliser. Donc, je pense qu'on va passer d'un mode 100% exclu vers celui d'une philosophie un petit peu premium qu'on commence à voir débarquer aujourd'hui. Et donc, on le voit avec les services de streaming vidéo qui sont un bon sujet d'étude parce qu'on voit que le jeu vidéo veut tendre vers ça, quoi. Donc, on voit qu'ils sont peut-être un petit peu en avance sur nous. Donc, on a vu que Disney revenait, par exemple, sur son modèle 100% Disney+, c'est-à-dire toutes nos ressources, on les fout pour alimenter ce service en contenu. Et il remet en avant les sorties ciné, tu vois, parce qu'il s'est rendu compte que c'est au cinéma que tu gagnais beaucoup de thunes, en fait. Quoi. Ils ont aussi dit que leur budget de production en interne pour 2024 serait revu à la baisse. Donc, on va, là, tu vois, ils sont un petit peu en mode, on se calme un petit peu. On sait que HBO Max, appelez-le comme vous voulez, hein, mais donc le service de streaming de Warner Bros qui galère un petit peu ces derniers temps, lui, il n'hésite pas à laisser échapper en fait des productions maison, comme par exemple la série Sandman qui est arrivée sur Netflix, justement pour la vendre, parce qu'il sait que lui n'a pas les reins pour la rentabiliser seul, et il sait qu'il la récupérera un jour ou l'autre, donc il va un petit peu mutualiser les coûts.
Voilà, c'est super. Enfin, c'est une stratégie qui est comparable à Sony qui sort d'abord sur ses machines et va le revendre après au marché PC, à ce qu'on peut voir des multiplateformes. Enfin, ça y ressemble, mais on n'avait pas l'habitude de le voir.
Exactement. Et en fait, parce que voilà, l'idée c'est de vendre ton contenu propriétaire à ton concurrent. Et l'idée n'est plus si saugrenue en fait, quoi, parce que
c'est clair.
Tu peux plus le rentabiliser à toi tout seul. Ce n'est plus possible, quoi. Et donc d'où ce passage de l'ère de l'exclu à l'ère du service. C'est-à-dire si tu n'as plus forcément ce contenu différenciant ou si ce contenu arrive chez le concurrent, il faut que tu proposes le petit service, le petit plus qui fera que les gens iront quand même chez toi.
Oui.
Amazon Prime, t'as la livraison rapide aussi qui est inclus dans ton abonnement. T'as accès à des services de musique, c'est un truc de streaming musical. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont même pas au courant et qu'un abonnement à Prime te donne accès à plein de bonus. On l'a vu, Netflix aujourd'hui, ils développent leur branche jeux vidéo en fait. C'est-à-dire que que pour l'instant, dans ton abonnement, sans surcoût, t'as accès à un catalogue de jeux. Ils ont acheté, voilà, c'est le petit service premium que
ils ont acheté des studios pour ça même.
Ils ont acheté des studios et ils comptent même pousser le truc. Et d'ailleurs, Netflix, on a vu, ils ont fait des pieds et des mains pour acquérir les droits de diffusion de l'animé One Piece. Donc, je parle du nouvel arc en simulcast, un actuel, pas le reboot dont ils ont parlé, pas la série live. Alors que cette série One Piece, tu la trouves chez Crunchyroll, tu la trouves chez ADN, c'est pas d'une exclue. Mais ils savent que ça peut être, voilà, bam, une nouvelle pièce, une nouvelle corde à ton arc, qui fait que le mec qui avait Crunchyroll, il va peut-être se dire, bon, bah, finalement, vas-y, je prends Netflix, comme ça, j'ai mon One Piece, et j'ai accès à tout le reste.
C'est clair, quoi.
Et donc, ça fait partie des solutions, en fait, qui sont recherchées pour éviter que le système, en fait, s'effondre un petit peu sur lui-même. Et ça vient un petit peu justifier les rumeurs qu'on entend en ce moment. En quoi, il y aurait des exclus Xbox qui arrivaient sur d'autres consoles. On parle de Hi-Fi Rush et Sea of Thieves, et je trouve que ça serait pas farfelu. Alors peut-être que ça n'arrivera jamais, peut-être que c'est des fausses rumeurs, hein. Mais l'idée, c'est que voilà, tu gardes tes exclus dans un premier temps, comme tu l'as dit, Sony avec le PC. C'est d'abord, tu sors ton jeu sur ta console, puis sur PC des années après. Et ensuite, une fois que t'as fait ton beurre, on va dire, tu proposes aux concurrents. Et là, le côté premium, le service, le petit plus d'Xbox, ça serait que toi, ton jeu, non seulement il était là Day One, mais en plus gratuit dans le Game Pass si t'es abonné, donc t'as pas à l'acheter. Et en fait, je me demande si cette réflexion-là, elle est pas née en fait des réflexions autour de Call of Duty. Lors du rachat d'Activision Blizzard, il y avait tout ce débat sur Call of, exclu, pas exclu, et s'il est pas exclu, comment tu peux le proposer à Sony, sur PC, etc. quoi. Et peut-être que cette démarche de réflexion, elle leur a donné des idées en fait pour d'autres jeux de leur catalogue.
C'est clair,
quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que comme ça, tu permets à ton jeu d'atteindre son plein potentiel. Bien ce qui est intéressant notamment pour les jeux services, comme Sea of Thieves, hein, qui fait partie de ces jeux en rumeur. Et comme Nintendo, par exemple, tout bêtement, a pu le faire lors des portages de ces jeux sur Wii U version Switch. Ils auraient pu dire, on laisse tomber les jeux Wii U, ça fait partie de ce catalogue ancien, on va aller créer des nouveautés. Mais non, parce que dans Mario Kart 8, certes, t'en vends quasiment 9 millions sur Wii U, ce qui est déjà énorme. Mais quand tu le portes sur Switch, c'est 57 millions de ventes. Donc laisse tomber la multiplication des revenus, quoi.
Oui.
Donc voilà, toujours pareil, il faut que le jeu puisse atteindre son potentiel. Mario Kart 8 sur Wii U n'avait pas atteint son plein potentiel.
C'est clair que non. On avait fait une chronique exprès sur le sujet des lancements. Et là, en fait, ce que tu nous expliques, c'est que trouver une solution pour donner plusieurs vies à un même titre et exploiter justement ce plein potentiel.
Comme le cinéma le permet avec, on l'a dit, le Blu-ray, le SVOD, etc.
Et ça, le jeu vidéo était contraint à ne pas l'avoir à l'époque parce qu'il y avait le lancement, la phase encore aujourd'hui la plus fondamentale, mais après les secondes phases, c'était le physique, c'était l'occasion, des choses qui en fait qui n'étaient pas aux mains des éditeurs ni des studios, et en fait il y avait tout cet argent en fait qui ruisselait certes sur l'industrie mais pas sur ceux qui créaient les jeux. Aujourd'hui, ils ont plus la main sur ça.
Ouais, et puis surtout que ça coûtait moins cher en fait. Et c'est que par exemple, quand t'es un Sony, tu peux faire le mec qui snob tout le monde parce que t'es pété de thunes et ça cartonne. Donc tu peux dire non, mes jeux vous les aurez jamais. Quand t'es Xbox connaît des difficultés à vendre ses Xbox Series et qui, justement, est plutôt outsider, ben lui, il a intérêt à aller créer ça. Alors, il reste encore aussi Nintendo, qui a un petit peu ce statut à part, parce que, a priori, hein, donc on n'a pas de chiffres, évidemment, mais ces jeux exclus, bah, il coûtera a priori quand même moins cher que les locomotives dont on a parlé. Quoique, Tears of the Kingdom, ça va coûter très très cher quand même.
Oui.
Et surtout, ils ont un retour sur investissement, bah, qui est plus important, étant donné que leurs jeux sortent sur leur console en exclu, et que leur console, ils en vendent plein. Donc, évidemment, tu vends plein de jeux derrière, quoi.
Et vous savez à quel point j'aime pas dire que Nintendo sont à part, mais ils ont un secret que les autres n'ont pas, c'est qu'ils font des long-sellers. Et que quand ils sortent Zelda, Mario Kart, ce que tu veux, ce n'est jamais en promo, c'est vendu tous les ans, tous les mois, à plusieurs millions d'exemplaires. Là où tout Microsoft et Sony, ils savent, même Rockstar, non, Rockstar, c'est pas vrai, avec GTA 5, il s'est vendu en mode Nintendo. Mais ils savent qu'ils ont une fenêtre de tir qui est tellement petite que s'il la rate, c'est foutu.
Ouais, mais c'est ça que Sony essaie d'annihiler, on l'a vu. Enfin, il y a beaucoup de gens qui reprochent, ah, ils font que remaker leur propre jeu, etc. Le jeu, il vient de sortir, pourquoi ils le refont en version PS5? Ben justement, parce que ton jeu, on l'a dit, Last of Us, ça fait 4 ans qu'il est sorti, Last of Us 2, il a jamais finalement quitté l'actu, parce qu'il y a toujours eu, voilà, passé le buzz de départ, t'as toujours une version accessible, pareil pour le premier, parce que ils veulent que leur jeu ait une fenêtre de dispo constante.
Oui.
Et on a parlé dans une chronique que j'ai faite il y a quelques semaines sur les jeux qui n'utilisent plus tellement, c'est que ton Last of Us 2 d'il y a 4 ans, bah, il a la gueule d'un jeu d'aujourd'hui, en fait. Il y a zéro souci là-dessus. Ton Uncharted 4, bah, il est encore ultra jouable, ultra beau aujourd'hui. Donc, c'est pertinent de les rendre encore disponibles pour tout le monde. Et donc, on parlait de Nintendo qui a ce statut particulier, mais on se rappelle quand même qu'à l'époque de la disette pendant l'ère Wii U, bah, ils étaient allés chercher de l'argent sur mobile avec le développement de jeux dédiés. Ils ont lancé les projets de parcs à thème et de longs métrages qui ont fleuri aujourd'hui. Mais voilà, donc il y avait aussi ce besoin chez Nintendo, bah, à un moment, d'aller chercher de la thune ailleurs. Parce qu'on va pas se leurrer, hein, c'est que ces entreprises, le but, ça reste de faire de l'argent, ça reste de satisfaire la bourse et les actionnaires. Et bon, ces mecs-là, tu vois, la bourse et les actionnaires, l'argent, peu importe finalement d'où il vient, tant qu'il rentre, c'est ça qui les intéresse.
C'est une triste conclusion.
C'est vrai, non, c'est vrai que du côté, tu vois, les gardes-chapelle, c'est des trucs de fanboy et de joueurs, mais la bourse, ils s'en foutent, ça. Si tous les jeux demain sortent, les jeux Nintendo sortaient sur PlayStation, Xbox, les mecs, ils seraient trop contents, parce qu'ils iraient gagner encore plus, quoi.
Mais oui, bien sûr. Triste conclusion, mais je pense assez réelle. Et on va continuer dans le prosaïque, dans la seconde chronique, mais on va un petit peu se détendre juste avant, avec un petit interlude top 3. Le top 3 des contre-emplois, alors qui, à la base, n'avait absolument rien à voir avec nos deux chroniques, et qui finalement, je trouve, se trouve plutôt à propos. C'est quoi c'est le top 3 des contre-emplois?
On a des studios où, on va dire, ils sont plutôt habitués à tel type de jeu, telle licence, et puis à un moment, ils vont sortir un jeu un peu qui arrive de nulle part et qui est complètement différent de ce qu'ils faisaient avant, ce qui est peut-être une logique économique un peu étrange, tu vas nous en parler, mais c'est plutôt rigolo.
Ouais. Allez, on commence top 3 des contre-emplois. Nico, tu commences. Parle de 3.
Je vais commencer, je vais pas te griller parce que je vais faire un double numéro 3 en fait.
Vas-y.
C'est des jeux plutôt récents, donc c'est pour ça que je les mets ensemble, ouais. C'est Hi-Fi Rush et Horizon.
C'est bon.
Donc voilà, Hi-Fi Rush, le jeu de Tango Gameworks. Tango, on connaît, studio japonais fondé par Mikami, qui s'est plutôt fait connaître dans le registre de l'horreur, du survival horror. Mm-hmm. Et là, ils nous sortent un beat'em up coloré, un cel-shading complètement un truc de ouf.
Musical.
D'autant plus qu'il a été shadow-droppé, ce qui a ajouté à son côté vraiment sorti de nulle part. Et pareil pour Horizon, rappelons-nous, Guerrilla Games, avant, c'était Killzone. C'était des spécialistes du FPS et tout. Et quand on a vu arriver Horizon, on s'est dit, what? Un monde ouvert, post-apo, avec une DA nature colorée et tout. C'est quand même un grand écart surprenant, quoi.
Grand écart de ouf. Assez convaincant, parce que Killzone, on en a mangé, des Killzone.
Ouais.
Ça faisait du bien d'avoir Horizon, mais ça a toujours été des pros de la tech. Ils étaient vraiment très précis.
Et là, c'est vrai qu'ils réussissent les deux, parce que tu sais que tu peux tenter un truc différent et te planter complètement.
Ah, complètement. Alors moi, mon top 3, c'est un jeu qui est pas sorti.
Oh!
Donc peut-être qu'il va se planter, mais ce jeu c'est Fable de Playground, et sachez que Playground a sorti 5 jeux, et c'est 5 Forza Horizon, et là leur 6e jeu, c'est Fable, donc un virage, si je puis dire, incroyable, mais moi j'étais assez convaincu par leur proposition de Forza Horizon qui avait un peu dynamisé et dynamité les Forza...
C'est déjà un RPG en plus, tu nous disais.
Sur les Horizon, grave, et donc... Franchement, moi, je suis très enthousiaste pour Fable. Et est-ce qu'on va en entendre parler là hier soir ou pour demain pour vous?
C'est vrai que oui, ce soir, là où on enregistre, il y a la petite conf Microsoft de rentrée.
Ouais. Et donc, toi, c'est vrai que Fable, tu l'attends ou
carrément, carrément. Et c'est vrai que autant c'est surprenant parce que c'est vrai que des studios qui font du jeu de voiture qui passent au RPG, c'est un peu étonnant. Mais comme tu l'avais dit à plusieurs reprises, c'est pas si étonnant que ça parce que t'as le côté monde ouvert, machin, le côté aussi RPG, y jouer dessus. Donc,
on peut voir des parallèles.
En tout cas, il y a de quoi avoir de l'espoir.
Ouais. Et Fable, les légendes nées de Peter Molineux. Et si vous voulez en savoir plus sur Peter Molineux, on a aussi sorti un bouquin sur Peter Molineux où il a octroyé plus de 20 heures d'interview à Raphaël Lucas, notre auteur. Donc, c'est vraiment plein de coulisses et de révélations.
Du personnage, c'est quelqu'un de passionnant et qui a plein de choses à dire sur l'industrie.
Carrément. Mais bon, ce Fable-là, le prochain, se fera un peu sans lui. Allez, ton top 2.
Alors, vas-tu t'en rappeler, il y a une époque quand Ubisoft a acquis la licence Tom Clancy, il a décliné de ouf. Et c'était l'époque PS3 360. Et ils avaient fait un jeu qui s'appelle Tom Clancy's End War.
Oui.
End War, c'était un sort de RTS, donc là aussi un jeu de stratégie, machin, complètement chelou pour Ubisoft.
Ouais.
Et en plus, qui pouvait se jouer à la voix. Je sais pas si tu te souviens.
Je me souviens de ouf. Et surtout, il était vachement optimisé, je crois, pour une table. Et personne pouvait l'avoir.
Ça, c'était un autre projet.
Ah ouais, c'était pas celui-là.
Je sais plus comment il s'appelait. Ruse, je crois.
Ah, Ruse, oui.
Qui était encore un autre truc qui était développé par un studio, pour le coup, je crois, qui était assez spécialiste.
Et c'était cette époque, Ox aussi.
Et Ox, qui à Ubisoft a fait du jeu d'avion, en fait, du S-Combat.
Trop bien.
Ox, c'était trop cool. End War, alors moi, je l'avais essayé, il était sympa, sans être exceptionnel, mais t'avais surtout ce côté rigolo, que tu pouvais jouer à la voix, en fait, pour commander tes unités, et t'avais une espèce d'arborescence pour leur donner des ordres et tout, et tu pouvais jouer. Alors, je sais plus si c'était Kinect ou quoi, pour la voix, comment ils détectaient la voix.
J'aimais bien cette époque.
Là, mais, tu vois, c'était l'époque où tu pouvais tenter des choses, sans risquer de te retrouver en caleçon, le lendemain, quoi.
C'est clair. Mon top 2, je pense que tu le connais, c'est The Mark of Kree.
Ouais.
C'est un jeu PS2 qui est sorti en 2002 et c'est le premier jeu de Sony San Diego. Et donc, à la suite de Mark of Kree, ils ont fait uniquement des jeux de basket et des jeux de baseball. Donc, MLB The Show, qui est encore sorti l'année dernière. Et qui sort là. Donc, c'est pour la petite histoire, c'est le jeu qui sort même chez Microsoft, qui est pourtant un jeu Sony San Diego. Et donc, voilà, The Mark of Kree, c'est un beat'em all d'aventure vraiment assez particulier, avec un système de combat de ouf où tu pouvais loquer l'ensemble des personnages qui étaient autour de toi, et ces personnages que tu avais loqués, chacun se voyait attribuer à un bouton de ta manette. Ouais. Et donc du coup tu pouvais après un petit peu comme ça, comme un Valkyrie Profile, choisir quel personnage t'allais attaquer en fonction du bouton. Et au-delà de ça, il y avait des séquences d'infiltration, enfin il était trop bien.
Un jeu un peu sous-coté, hein, et comme sa suite d'ailleurs, qui est un petit peu oublié alors que c'était des très bons jeux.
Il s'appelle Rise of the Kasai et qui n'est pas développé par Sony San Diego. Et donc en tout cas, Mark of Krill est disponible PlayStation Plus Premium si ça vous intéresse, ça vous intrigue, et franchement je vous jure, n'hésitez pas à y aller parce que c'est une vraie tuerie. The Mark of Krill, j'en ai un super souvenir. Et donc voilà, après ils ont fait des jeux de basket et de baseball, et aujourd'hui encore. Donc contre-emploi, alors contre-emploi bizarre parce qu'eux ils ont commencé
voilà,
l'aventure.
Le contre-emploi est venu après finalement.
Il est venu après. Allez, le top 1.
Top 1, vas-tu t'en souvenir? Rappelle-toi Criterion Games, le studio qui est aujourd'hui absorbé chez EA, qui a pondu du Burnout à foison, qui aujourd'hui fait du Need for Speed. Et entre-temps, à un moment, ils ont sorti un FPS qui s'appelle Black.
Oui.
Et voilà.
Ah, je me souviens de leur punchline.
Ah oui.
En fait, ils voulaient faire le jeu le plus réaliste du monde, avec la sensation de d'arme la plus crédible ever.
Qui est chelou.
C'était c'était chelou, mais c'était vraiment leur leur marketing était basé sur ça. C'est quand vous allez tirer, c'est comme si tu tires en vrai.
Et
c'était
tu un tues peu des gens, c'est comme si tu tues des vrais gens, c'est ça qu'on veut.
Et je crois qu'on l'avait chroniqué dans notre fanzine il y a 19 ans.
Ah oui. On avait failli en faire une couve, mais comme c'était compliqué à exploiter quoi. Mais ça sera marrant. Alors j'ai dit à Ken qu'il allait certainement galérer à trouver du gameplay, mais j'ai même pas regardé de les vidéos, donc je serais curieux de voir la gueule qu'il a, parce que c'est
à l'époque,
un mec qui fait un jeu de voiture te sort en FPS.
Il était sublime. Hein.
Ouais.
À l'époque, il était vraiment, vraiment super beau. Et ce fanzine, alors je sais pas si c'était le numéro 2 de notre fanzine Console Syndrome, où on s'est dit, on va pas faire Black parce que ce sera une couve tout noir. Du coup, on a fait une couve King Kong.
Tout noir aussi. Qui a pas été un franc succès.
C'était pas un franc succès non plus. Allez, mon top 1, je sais que tu le connais, c'est sûr. C'est Alone in the Dark sur PS3 et 360 en 2008, qui a été développé par Eden Game, donc studio lyonnais, bien connu.
C'est vrai.
Qui ont fait quand même 17 jeux de voitures, V-Rally, Test Drive Unlimited, Need for Speed, vers la version Porsche CE, Schtroumpf Kart CE. Donc, en contre-emploi, ils ont fait donc ce fameux Alone in the Dark, sorte de reboot non numéroté, dont Nicolas Denechaud en parle très largement dans son livre, et moi, que je n'ai jamais fait, mais qui me donne envie. Mais
c'est une vraie curiosité, parce qu'il est pété à tellement d'égards, et en même temps, il a proposé des choses complètement ouf et novatrices.
Super ambitieuses. Vraiment.
C'est un jeu que j'aime bien, moi. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé du tout, mais c'est trop ça, quoi.
Il y a eu deux jeux contre-emploi. Donc, c'est ce fameux Alone in the Dark et Kia The Dark Lineage. Donc, c'est coup de cœur de malade. Un jeu
Qui s'en souvient?
Franchement, on n'est pas beaucoup, mais jeu d'aventure à la Jack and Daxter, un peu stylé, où t'as une héroïne qui a une sorte de skateboard, mais qui a aussi un système beat'em all ultra efficace et un gros plaisir. Moi,
ça jouait beaucoup sur la physique aussi, où tu pouvais les ennemis les envoyer valdinguer, t'en servir comme des projectiles quelque part.
Ouais, tu pouvais leur faire des coups un petit peu stylés. Ouais, ce Kia, je l'adore, et Alone in the Dark, que je n'ai pas fait, mais j'aimerais beaucoup, mais il est pas très très accessible, c'est très dur d'y jouer, faut sortir les vieilles consoles et tout. Sur 360, sur la version Xbox, ce n'est pas rétro-compatible, donc c'est la galère, mais
c'est la misère.
Je pense qu'il a bien sa place dans ce top 3 des contre-emplois.
Tout à fait.
T'as pas de mention?
J'ai quelques petites mentions. Vas-y. Ouais, je citais Viva Pignata chez Rare. On sait Rare est quand même un studio versatile, capable de créer plusieurs sortes de jeux.
Contre-emploi dans le genre, mais dans le feeling.
Mais c'est vrai que t'avais ce Viva Pignata. Alors, comment on pourrait le définir?
C'est une sorte de simulateur de parc d'attraction, mais t'as pas des animaux, t'as des pignatas.
Ouais, t'as tout un côté jardinage et compagnie.
Ouais.
Aussi.
Moi, j'ai adoré. J'ai joué surtout et beaucoup au premier. J'ai pas fait le second, mais c'est une curiosité, mais géniale.
Qui avait une DA de ouf en mode justement pignata, tout bêtement.
Complètement.
Un autre, L'Ombre du Mordor de Monolith Productions, qui était habitué des FPS avec Fear et compagnie, qui ont fait Condemned sur Xbox.
J'avais pas fait le lien.
En fait, c'est eux. Donc là-dessus, L'Ombre du Mordor et sa suite, qui sont deux Assassin's Creed avec des skins Seigneur des Anneaux, mais qui étaient plutôt cool.
Ah, carrément, carrément. Bon, en tout cas, voilà pour ce top 3 des contre-emplois qui se voient plutôt pas mal niveau emploi par rapport aux chroniques d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous donner votre top, à nous donner d'autres idées de top 3. On a eu pas mal sur le Discord d'idées. Le top 3 des jeux, vous avez pleuré. Désolé, moi j'ai jamais pleuré devant un jeu.
Je suis triste.
Non, mais je suis super triste. J'aimerais, moi, que. Mais ça m'est jamais arrivé, donc on le fera pas.
T'as pas pleuré quand t'as perdu ta sauvegarde après un plantage?
Si, après, il y a d'autres façons de pleurer.
C'est vrai.
Mais en tout cas, pas d'émotion. Vous avez donné plein de très très bonnes idées, donc merci encore pour votre participation. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Discord.
N'est-ce pas? On est bien, il y a du monde, c'est cool.
On va continuer sur ce même sujet. Est-ce que les triple A sont-ils en panne? Nico, tu viens de nous l'expliquer. L'explosion des budgets fait que, ben, on est peut-être à un tournant de l'industrie pour la première fois sur ces gros blockbusters. Mais bon, pour s'adapter à cette nouvelle conjoncture, ben, les studios, et ça quand même depuis de nombreuses années, ben, développent les triple A d'une façon un petit peu particulière. Alors, on peut appeler ça le développement itératif ou développement incrémental.
Alors, des mots qui font pas peur du tout.
Quelque chose d'incrémental, c'est quelque chose qui avance petit à petit, mais qui prend à son compte une base qui est déjà faite. Et cet accroissement qui est constant, régulier, mais qui est pas, en fait, forcément vertigineux, ben, c'est ça, là, en fait, l'incrément. Et le développement incrémental, ben, on peut surtout l'observer, dans les très grosses productions, notamment des suites. Et c'est l'évolution entre le premier et le second jeu qui formera ce fameux incrément. Mais on peut aussi voir cette façon de faire itérative dans la production d'un éditeur entier, comme chez Nintendo, Ubisoft ou Bethesda. Bon, bien d'autres, hein, mais chez eux, on voit bien qu'ils ont itéré pas seulement au sein d'une seule franchise, mais dans tous les jeux. Et de là, on va retrouver des éléments qui sont distinctifs et communs à plusieurs de leurs titres. Genre, ben là récemment, Nico, t'as fait Avatar et Starfield. Okay. Et même si c'est pas des jeux d'une seule série, on sent bien que ce sont des prods Ubisoft et Bethesda, donc la logique incrémentale fonctionne aussi à plus grande ampleur.
Carrément.
Ouais, tu l'avais, le petit Far Cry.
Oui, voilà, ce partage de savoir. Et puis, comme on l'a dit, Starfield, certains, c'était un peu le Elder Scrolls dans l'espace. Donc.
Mais tout ça a une raison. Alors, pourquoi les gros jeux se basent toujours sur une fondation existante? Pourquoi les AAA n'évoluent-ils pas plus? Pourquoi, quand il y a une évolution, elle est justement mesurable et elle est pas titanesque? Ben, c'est ce qu'on va voir. Mais avant, on va revenir deux petites secondes, hein, sur la notion des trois tiers qui illustre bien cette évolution, qui est mesurée des gros AAA. Alors, on l'a déjà évoqué, surtout sur les podcasts de Spider-Man 2, God of War, Horizon, vous allez voir que ce n'est pas un hasard. Alors, un gros jeu, un triple A, une suite, on va dire, ben, quand elle est produite, on dit qu'elle respecte la règle des trois tiers. Et dans ce nouveau jeu, vous retrouverez par rapport au précédent, ben, un tiers de nouveauté, donc ça c'est 100% du neuf, un tiers d'amélioration, donc ça c'est des choses qui sont déjà présentes dans le premier jeu, mais qui sont mieux faites, qui sont améliorées, et un tiers de choses similaires, donc là on est dans 100% du recyclage. Et dans ce nouveau jeu, ben, on retrouve du coup deux tiers d'éléments qui sont un petit peu connus. Par exemple, entre les deux Horizon, les deux God of War, les deux Spider-Man, on peut le constater, c'est plus ou moins cette répartition. Donc par exemple, hein, faut pas s'étonner de voir d'un jeu à l'autre des animations en tout point similaires. C'est pas grave. Et le plus souvent, ce qui est conservé représente des éléments qui sont optimisés, nickel, et qui méritent pas spécialement d'être améliorés. Nico, on a pu voir sur les réseaux des fois des gens qui vont gueuler en disant « Cette animation, mais c'est la même,
oui, comme une suite si, !» voilà, c'est chelou, t'as 50 manières de tomber d'un arbre, quoi. Après, c'est la fameuse expression anglaise « Si c'est pas cassé, pas besoin de le réparer, quoi. »
Exactement, c'est un petit peu cette logique. Donc, l'innovation fonctionne ainsi pour diverses raisons rationnelles. Hein, Nico, ta première chronique, voilà, on est rationnel, pragmatique. Et en effet, la nouveauté, bah, c'est pas forcément tout réinventer. On peut pas systématiquement recommencer de zéro, surtout avec des jeux qui sont si chers. Innover, c'est améliorer l'existant. C'est pas du tout faire une révolution. Les jeux, ils évoluent donc par petits pas et utilisent le développement incrémental pour trois raisons, entre autres, mais il y en a surtout trois. Et la première, c'est pour conserver l'efficacité des boucles de gameplay. Alors, le gameplay d'un premier jeu, il a fonctionné. Il est efficace, on le connaît. Bah, les développeurs, ils vont pas prendre le risque de tenter un truc vraiment nouveau ou repartir de zéro pour une suite ou un nouveau jeu. Parce qu'imaginer un gameplay, en fait, l'inventer, c'est très abstrait. Et donc, avant la phase de proto, donc la phase, une version du jeu qui est très 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 sommaire, bah, les devs, ils ont qu'une idée théorique de ce que ça va donner. Ils ne savent donc que théoriquement si c'est amusant ou pas. Et pour vous donner un exemple, et on aime bien les analogies culinaires, projetez-vous. Imaginez une recette, mais vous n'avez pas le droit de la goûter. Bah, franchement, c'est pas évident. T'as déjà essayé de faire ça?
Non, mais après, bon, moi, je suis un piètre cuisinier, mais j'ai l'impression que les cuisiniers, justement, au niveau, c'est d'abord, ils conceptualisent un peu en disant, si je mets telle saveur et telle saveur, ça va créer cet équilibre, donc vas-y, je tente, quoi.
Ils tentent, mais on sait bien que l'assaisonnement.
Ça peut foirer. Et oui, que ça,
c'est
le goût, le goût, le goût.
Le goût, le goût, le goût, mais il y a forcément, il faut ajuster. Ouais. Et là, les enjeux sont tellement énormes. Imaginez un gameplay, justement, est-ce que c'est amusant ou pas? Ça, c'est que théorique.
C'est le menu le plus cher du monde.
C'est le menu le plus cher du monde. Alors, la seconde raison de l'utilisation du développement incrémental, c'est pour s'assurer un temps de réaction qui est correct face au changement du marché et de la concurrence. C'est si long de faire un triple A, 5, 6 ans pour un premier volet, que si la suite demande autant de temps, bah, ça couvrirait une génération entière de consoles. Et donc, bah, on voit bien que l'inertie, elle est énorme. Ce genre de jeu, bah, c'est des paquebots qui sont gigantesques à diriger, hyper longs, et pour les manœuvrer, bah, ça prend du temps. Du coup, pour minimiser un petit peu ce temps de réaction, bah, le développement incrémental est utilisé. Alors produire comme ça, c'est s'assurer un temps de réaction qui est plus court face à la concurrence, même si tout est relatif. Mais ça peut permettre, par exemple, de mettre un petit mode roguelike dans God of War et The Last of Us. C'est pas pire, ça montre qu'on est dans le coup.
Ouais, carrément.
Refaire un jeu de zéro, c'est prendre 4, 5 ans. Donc, niveau flexibilité, sur les tendances du marché, c'est clairement pas optimal. C'est pas suffisant. Et si les tendances vont et viennent de plus en plus vite, bah, les développements des jeux, eux, ils s'allongent. Nico, pour rebondir sur cette problématique, parlons 2 secondes, si t'es ok, de Final Fantasy XVII. Alors oui, 17. Mais en fait, on a eu des infos très récemment qui illustrent pas mal cette difficulté de corriger le tir après un jeu. Et là, Final Fantasy, c'est pas vraiment du développement incrémental. C'est la logique des Final Fantasy, repartir de zéro.
Tout à leur honneur, hein, quelque part. Ils se facilitent pas les choses.
Comment on fait après FF16, qui a pas forcément convaincu tout le monde, pour corriger le tir?
Alors c'est marrant parce que là tu parles des déclarations de Yoshida qui on lui a posé la question qu'est-ce que vous pensez du futur et tout. On sait que FF17 est en développement depuis un moment, on va pas se faire les gens qui ne savent pas, mais
même si ils sont pas si sûrs que ça de...
Ouais, mais ce qui veut dire c'est que voilà les leçons que tu peux tirer de FF16, oui, ben vont peut-être pas pouvoir s'appliquer dans FF17 ou alors à un niveau qui va là aussi créer un décalage
ou alors ça va retarder.
Donc oui, on voit que c'est compliqué. Alors c'est vrai que moi j'ai fait une prédiction que j'enregistre en vidéo, c'est que pour moi le FF17 sera confié à la team Asano, donc de Square Enix, donc ceux qui font tous les jeux en HD 2D, donc ouais. Octopath Traveler et tout, parce que Yoshida qui dit que la saga a besoin de 109, il dirait pas ça si FF17 était confié à des vieux de la vieille. Je pense que ça serait un peu bizarre, un peu contre-productif. Et surtout voilà, ça apporterait une vision, c'est une équipe qui fonctionne, qui arrive à créer ce ressenti et surtout cette essence du JRPG qui est chérie par les fans, quoi. Alors je dis pas que FF17 sera un HD2D, hein, ça sera un gros jeu AAA avec plein de thunes et plein de...
Même si Yoshida en parle, à un moment il dit mais pourquoi pas revenir à du pixel
pourquoi
et tout.
Pas. Je Après, pense que ce serait trop radical, mais un retour à quelque chose, voilà, peut-être d'un peu plus concentré, un peu plus médiéval, un peu plus machin. Voilà. Mmh.
En tout cas, Yoshida maintenant fait partie du conseil d'administration, donc c'est vraiment pas n'importe qui. Au-delà du fait qu'il a quasiment sauvé la société avec FF14,
et c'est le boss du FF le plus lucratif encore aujourd'hui. Donc.
Encore aujourd'hui. Après, la team Asano, voilà, c'est une team de Asano, c'est un producteur et en fait, lui, il va chapeauter plusieurs équipes qui sont pas forcément en interne chez Square Enix. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec Final Fantasy IV Heroes of Light, Octopath Traveler, Bravely Default.
Triangle Strategy.
Donc lui, il travaille avec des externes. Final Fantasy, c'est historiquement toujours développé en interne. Même Final Fantasy VII Remake, qui était externalisé, c'est CyberConnect, bah, c'est revenu en interne quand c'était le bordel. Bah, franchement, s'il faut changer les process, bah, pourquoi pas.
Oui, et puis après, là, ils ont réintégré aussi tout le studio Luminous. Hein. Donc, t'as une main-d'œuvre de 200, 300 personnes, peut-être, qui savent faire du AAA qui est disponible. Ça peut être ta soupape pour justement ne pas sous-traiter. Et on sait, par exemple, tu vois, les Dragon Quest, ils sont sous-traités depuis le début, en fait. C'est développé en interne chez Enix.
Toujours.
Mais on voit que ça marche bien parce que t'as cette espèce de comité créatif et décisionnaire qui va te dire, ben voilà ce qu'il faut faire, quoi.
Yuji Horii est l'équivalent de Asano, quoi.
Et rappelons-nous même Lost Odyssey, hein, qui était dans Miss Walker, c'était un peu pareil. C'était un studio qui créait la matière, la créativité et tout.
C'était Phil
Plus. Voilà, c'était le studio Phil Plus qui avait les mains dans le cambouis pour développer Lost Odyssey, quoi.
Donc, franchement, pourquoi pas.
Après, voilà, c'est juste que Yoshida, on voit que il est sur FF14 et qu'il veut faire ça toute sa vie. J'ai pas l'impression que FF16 ça a été sa passion. J'ai l'impression qu'on l'a un peu forcé à le faire et qu'il a pas forcément envie de refaire la suite.
Oui.
Et on sait que la team Kitase, Nomura et compagnie, ben c'est du FF7 encore pendant des années et du Kingdom Hearts. Donc c'est plus une question qui reste en fait pour développer, quoi.
Oui. Et pour revenir sur le sujet, après Final Fantasy XVI, changer de braquet, c'est pas évident et dans tous les cas, c'est long. Et s'il va, comme tu disais, ils vont prendre enseignement de tout ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, ça peut retarder ou ça peut, enfin, c'est très 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 compliqué.
Ouais.
Alors la troisième raison de l'utilisation du développement incrémental ou itératif, c'est l'assurance du résultat et donc le retour sur investissement. Voilà, on n'est pas là pour rien. Quand un succès est avéré, ben, on lance une suite sur les mêmes bases pour économiser et donc avoir un fort retour sur investissement. C'est mathématique. Si un jeu a fonctionné une fois, il risque de fonctionner encore et encore plus fort s'il est meilleur. D'autant plus dans le jeu vidéo, car sachez que dans le jeu vidéo, contrairement à l'édition et à la presse, ben, ça connaît pas le phénomène qu'on appelle d'attrition. L'attrition, c'est quand d'un numéro à l'autre, pour un magazine ou une collection de livres, le nombre de ventes baisse. Le numéro 1 d'un mag, d'une série de livres ou d'un manga, par exemple, ben, c'est toujours celui qui fonctionne le mieux. D'ailleurs, hein, sur la durée, on gagne toujours des lecteurs avec le tome 1, et tous les ans, ce sont les tomes 1 de Naruto et de One Piece qui sont en tête des classements, et ça, mais depuis des années et des années. Dans l'édition, on dit même qu'on recrute de nouveaux lecteurs avec ce fameux tome 1. Et donc, dans le jeu vidéo, c'est le contraire. Le phénomène est inverse. Plus les jeux s'enchaînent, plus les ventes augmentent. Alors, c'est lié à plein de choses. La place du jeu vidéo dans la société, le parc installé de machines qui, très récemment, tu disais, stagne, mais si tu compares aux années Zion, ça a explosé, ça n'a plus rien à voir. La force des licences qui gagne en renommée d'année en année, etc., etc. Vous avez capté l'idée. Nico, voilà, dans le jeu vidéo, si tu fais une suite, le 2 marchera mieux que le 1, le 3 marchera mieux que le 2, c'est souvent le cas.
Ouais, mais c'est vrai qu'on voit, c'est un peu l'enjeu du moment, que ce soit dans le jeu vidéo, ailleurs, Netflix et tout, tu recherches des IP, donc c'est-à-dire une franchise qui va se faire connaître, qui va parler aux gens, et tu vas créer des produits autour, alors c'est dit de manière très pragmatique, hein. Mais voilà, le plus dur, c'est de faire connaître ton univers et tes franchises, et puis après de développer, d'essaimer les projets.
Voilà. Et encore une fois, c'est lié à la façon dont c'est développé, le coût que ça coûte, l'explosion des budgets qu'on dit depuis le début, c'est que le risque maintenant est trop grand, c'est trop énorme, donc en fait, il faut assurer. Alors l'argument du retour sur investissement est important, et on pourrait croire que c'est même le plus important, mais non, il y en a un autre plus fondamental encore, et aucune des raisons que j'ai évoquées dans cette chronique n'est aussi primordiale que la raison principale du pourquoi l'innovation est incrémentale, c'est l'habitude. Les gros jeux évoluent peu pour ne pas bousculer vos habitudes. Vous, moi, toi, Nico,
pointe pas du doigt, s'il te plaît.
Personne n'accepte les changements radicaux. C'est systématique. Dès qu'un changement est trop visible ou trop important, on peut observer une réaction de rejet du public. Les voitures électriques, c'était une hérésie. Le tactile, on voulait tous garder un clavier. Les paiements numériques, non, on voulait nos chèques et nos billets. Les AirPods, tout le monde s'est moqué des gens avec les cotons-tiges dans les oreilles. Tout le monde en a. Et si ça vous intéresse, tous ces comparos, je vous conseille une fabuleuse chaîne qui s'appelle Léo Duff. Je trouve que c'est quasi le meilleur du YouTube game. Voilà, il est très sur la tech, sur Apple, et il y a quand même t'as beaucoup de choses qui m'ont inspiré dans cette chronique. Et on est comme ça, parce que les habitudes, ça nous construit, ça nous façonne, et sans le savoir, sans le conscientiser, on va souvent préférer la facilité de la routine au danger de la nouveauté. C'est compréhensible parce que les évolutions sont source de doute, de peur, mais surtout, ces craintes vont peut-être réfréner un achat. Alors nous, vous qui écoutez, on se renseigne sur les jeux, on va diguer la moindre info, donc on sait à quoi s'en tenir avant de passer à la caisse. Mais le plus grand public, qui est, il faut le rappeler, la plus grande partie des joueurs, et je dis ça sans aucun dédain, eux, ils peuvent avoir des appréhensions et favoriser la sécurité, et donc favoriser ce qu'ils connaissent. Investir 80€ pour un nouveau jeu, c'est un budget, hein. Donc pour beaucoup, il faut assurer un achat, il faut évacuer l'incertitude. Et faut-il le rappeler, c'est le succès public qui fait le succès d'un jeu. Les bonnes notes, la reconnaissance critique, le métacritique, c'est important. Mais un jeu parfait pour un studio, c'est pas un jeu à 20 sur 20, c'est un jeu qui se vend. Avalanche, par exemple, le studio qui développe Hogwarts Legacy, ils sont deg de pas avoir été présents lors des Game Awards et des célébrations de fin d'année. Mais pour avoir fait 22 millions de ventes en moins d'un an, je peux vous dire qu'ils sont aux anges.
Oui, à choisir, hein, ils auraient pris les ventes, quoi.
Et évidemment qu'il va y avoir une suite, parce qu'avec ce jeu, ils ont validé une démarche créative, ils ont validé un investissement de plusieurs millions. Et je peux vous assurer qu'Hogwarts Legacy 2, il reprendra les bases du premier, il sera plus ambitieux, mais il ne sera pas révolutionnaire. Nicolas, donc t'as réagi, oui, bien sûr qu'ils auraient choisi les ventes, ils ont été complètement absents des célébrations, Hogwarts Legacy, tout ça... Bon, ils ont pété 22 millions en un an.
Oui, t'as le gif où le mec, il essuie ses larmes avec des billets, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Choisir, de toute façon, oui, la reconnaissance, c'est toujours bien, mais c'est la cerise sur le gâteau, quoi.
Ce qui est important, dans les faits, c'est les ventes, parce que c'est ce qui fait manger l'éditeur, le studio, et qui va peut-être créer le budget pour les jeux à venir. Alors, c'est sûr, une suite qui reprend une structure et un gameplay connu, c'est pas la chose la plus excitante du monde, hein. Parce que ce jeu, on le connaît déjà un peu, en réalité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça sécurise des investissements qui pourraient mettre en péril un studio, voire même un éditeur entier. C'est une réalité, un AAA qui se plante, ça peut faire fermer un studio ou une branche entière d'un éditeur. Volition, un studio vieux de 30 ans, a fermé du jour au lendemain l'année dernière après le plantage du remake de Saints Row. Même si les raisons sont diverses, dont la restructuration d'Embracer, mais ce Saints Row était peut-être trop similaire au reste de la série.
S'il avait cartonné, ils auraient pas fermé.
C'est ça. Mais tu vois, il était pas dans l'air du temps. Il a pas su observer et réagir à la concurrence, comme on l'a dit tout à l'heure. Et on a vu des franchises qui ont connu des virages importants, qui avaient besoin d'un vent nouveau, d'une révolution. On l'a vu avec Zelda, après Skyward Sword, on l'a vu avec Resident Evil, après RE6, même si RE6 s'est bien vendu. Mais c'était un moment de saturation pour la série. Et Capcom, ils ont su l'anticiper. Mmh. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas évident.
On parlait de God of War aussi, qui a eu besoin de cette nouvelle vie avec le reboot.
Mais eux, ils ont eu, avec God of War, un temps très long de réflexion. Il y a eu une coupure, là où Capcom, là pour le coup, ils ont eu le nez. Ouais. Après RE6, qui a été le plus vendu, ils ont senti que c'était là, il y avait une saturation, et là, ils ont changé de braquet. Vraiment.
Chapeau.
Encore une fois, chapeau au Capcom. Alors, dans le Red Alert du début janvier, ben, on vous a expliqué la raison de tous ces licenciements de 2023. Et ce bilan humain qui est catastrophique, c'est peut-être pas un épiphénomène. C'est sûrement une tendance de fond qui va se poursuivre parce que les prises de risque deviennent trop importantes et que dans le business, ben, il y a rarement de sentiments. Et quand ça marche pas, on vire les gens, on ferme les studios. Après, avec cette chronique, ce que je veux dire, c'est que le manque d'audace créative pour les AAA, il est explicable. C'est pour ça que dans les jeux, c'est pour ça que des jeux comme The Last of Us 2, Red Dead 2, Death Stranding, ces AAA d'auteurs, en fait, ils sont exceptionnels. Exceptionnels dans le premier sens du terme. Ces jeux, ben, ils sont pas censés exister, vu la conjoncture actuelle. Pour survivre dans ce marché délirant, c'est presque devenu une obligation de proposer des AAA plus consensuels, moins radicaux. Encore une fois, c'est logique, car le risque, il est trop important, l'investissement, il est trop lourd. Et ça m'attriste parce que c'est une prise de position qui n'est pas souhaitable pour personne, mais qui est souhaitée par les joueurs. Et je sais bien que l'art, c'est proposer et non répondre à une demande, mais que dans le contexte actuel, proposer quelque chose de vraiment neuf, bah c'est trop risqué. Et vous voulez une preuve, et ça me brise le cœur, hein. Mais regardez Mario et Lapin Crétin 2. C'est pourtant un jeu qui est estampillé Mario, hein. C'est quand même quelque chose, c'est pas rien. Tous les jeux n'ont pas cette chance. Eh bien, ça n'a pas suffi. Mario et Lapin Crétin 2 n'a pas respecté aucune des règles citées dans cette chronique. Alors, c'est pas du tout une formule magique, hein, et tous les devs sont au courant, mais ils ont pris trop de risques, ce qui est remarquable. Hein. Le jeu, il est génial, mais il s'est vendu à 3 millions, ce qui est un échec pour Ubisoft. C'est dire la mesure de ce que représente un succès pour un gros studio. 3 millions, ça suffit pas. Tu l'as dit tout à l'heure avec Sony, 8 millions, 10 millions pour Days Gone, ça suffit pas. Le premier Mario et Lapin Crétin, il s'est vendu à 10 millions. C'est plus que 3 fois moins que le 2.
Rappelons que c'était ton Gotti, donc que t'es deg, quoi.
Ouais, donc c'était vraiment énorme. 3 millions, 10 millions, le delta, il est trop important. Ben oui, les changements opérés pour cette suite, ben ils ont été trop radicaux. Et quand dans le Red Alert du bilan, je vous disais qu'on est en passe de vivre une crise de la créativité des jeux AAA, c'est pas par manque d'idées des développeurs, mais par le manque de latitude qu'on va leur laisser. Car plus les budgets vont augmenter, plus les jeux vont se ressembler. C'est une certitude, parce que les enjeux sont trop importants. Il faut assurer le business.
Ouais. Et puis, alors là, je nous jette tout sous le bus, hein, mais il y a, enfin, dans le jeu vidéo, il y a quand même un public qui est quand même, alors, je sais pas dire plus exigeant ou plus casse-couille, mais on a quand même la team scrogneugneux de base, quoi. C'est que, on veut de la nouveauté, et quand ça change, on râle. On veut la même chose, mais quand c'est pareil, on râle. Enfin.
Oui.
Ça, c'est on parlait de FF16 aussi, hein, mais c'est vrai que dans le genre.
Mais ça, et encore, t'as tout à fait raison, et je suis d'accord, mais c'est dans nos petits cercles de ça révolutionne, on n'est pas content, ça reste pareil, on n'est pas content. Et comme j'ai essayé de l'évoquer, ce qui est fondamental, c'est le succès public. Et, oui. Tu vois, c'est que si eux, enfin, si la vague du grand public, mais même, je nous compte dedans, ben, suit un mouvement, ça va. Hogwarts Legacy n'a pas été une révolution du monde ouvert. Ils ont fait quelque chose de propre. Ils ont fait quelque chose d'efficace. Certes, avec une licence qui marche pas mal, hein, Harry Potter. Mais ils auraient pu se planter. Ils auraient pu faire quelque chose qui était complètement révolutionnaire et tout. Ils ont fait quelque chose de stable.
Ouais, puis, enfin, moi, je pense, tu l'as dit, suite garantie, même des spin-offs, et je suis même convaincu que ça va donner des idées au cinéma, en fait, où la série Harry Potter galère à rebondir au ciné. Et là, en fait, ça peut les aiguiller sur faire des spin-offs dans des époques complètement différentes et tout.
Ouais. En tout cas, voilà, moi, c'est ma conclusion, c'est que je pense vraiment que plus les budgets vont augmenter, plus les jeux vont se ressembler. Et tout à l'heure, on l'a rapidement dit, Hollywood a connu des crises créatives au niveau des blockbusters. Je pense que ça va craquer là dans quelques temps. Et en tout cas, si ça craque pas, s'il y a pas ou une grosse crise, c'est-à-dire des studios, des éditeurs entiers qui s'effondrent, des blockbusters qui marchent pas comme 2023 au cinéma, il va y avoir une modification foncière.
Après, au ciné, c'était à nuancer dans le sens où t'avais le gros succès énorme de Barbie, d'Oppenheimer et même de Super Mario, et les gens se disaient ah là là, ça y est, c'est plus des super-héros, c'est des films originaux qui cartonnent. Alors que Barbie et Super Mario, c'est quand même des adaptations de licences qui tâchent. Donc là aussi, c'est toujours à nuancer derrière, quoi.
Ouais. Et donc, on le voit, ces jeux qui vont pas utiliser ce développement itératif, qui vont se baser sur rien. C'est compliqué. Rocksteady et Suicide Squad, ils sont un petit peu dans la panade.
Les pauvres.
BGE2 chez Ubisoft, on les salue. Mais, tu vois, partir de rien, itérer, changer même de génération de console entre les jeux, bah, c'est galère. Après, il y a des contre-exemples. Skull and Bones, Bones, qui était 100% du itératif, parce qu'ils ont pris un savoir-faire d'Assassin's Creed, ça n'a pas marché.
Ouais, c'est vrai que là, c'est un peu étonnant. Mais c'est vrai que, enfin, tu te dis, oui, déjà, une suite, quand tu fais, que tu l'as dit, en utilisant la règle des trois tiers, tu prends 4-5 ans, donc une nouvelle licence, t'imagines, tu mets 8 ans de dev, enfin, voir ce que le monde a changé entre le moment où t'as commencé et le moment où ton jeu il sort.
Comment tu te retournes? Ben, Cyberpunk, l'exemple qu'on a évoqué, c'est ça, en fait, si tu prends le temps réel de développement avec ces 3 ans de bricolage, ouais, non, c'est pas du tout 4 ou 5 ans le développement, ils ont mis 8 ans à le faire. Après, voilà, il y a des rockstars qui arrivent, mais je pense que ça sera significatif, et c'est pas du tout ce que je leur souhaite, si par exemple le prochain GTA se plante. Et là, ça sera, là, ça peut être vraiment le signe de ça craque, il y a un truc qui va pas.
Ouais, et puis il faut aussi prévenir, si les gens disent, ah tant mieux si les AAA se plantent, comme ça il y aura que des jeux indés créatifs, on va s'amuser, c'est trop bien. Non, c'est que les AAA, c'est garant de la santé d'une industrie en entier, donc qu'on aime ou qu'on aime pas, il en faut et il faut qu'il marche, quoi.
Oui, et bon, Ubisoft, ça a été un exemple de toute cette émission, mais c'est le cas, je pense, de tous. Ils ont des plus petits jeux, des double A, on appelle ça des jeux, on va dire, de fond, comme un catalogue, qui est important pour dynamiser, pour faire de l'actu. Mais ces gros, ces grosses machines de guerre, ils peuvent pas survivre avec des jeux si petits où il faudrait les multiplier par je sais pas combien. C'est, et tu l'as dit, fondamental. Les triple A, c'est eux, c'est la jauge de santé, de vitalité d'une industrie. Donc, il en faut. Ce qui est triste, c'est que, ben, toi comme moi, on aime bien ces gros triple A. C'est peut-être de voir un petit peu le fait qu'ils soient plus consensuels par la force des choses, de voir qu'en fait, ils se répètent. C'est normal parce que c'est trop risqué. Et c'est pour ça que Death Stranding, on est tous devenus fous. En fait, quand on a vu ça, on a fait, mais le mec est taré, quoi, tu vois. Et puis Sony, enfin tout ce qui ont un, c'est exceptionnel. C'est pour ça qu'il faut le chérir.
Ouais.
Mais on verra DS2, ce qu'il en est, combien il a conservé du premier. Est-ce qu'il va y avoir cette logique itérative? Moi, j'ai hâte aussi de savoir qu'est-ce qu'il va conserver.
C'est marrant parce que quand tu parlais de ton exemple, je réfléchissais que Tears of the Kingdom, c'est peut-être les deux demi, en fait. C'est que un demi de réutilisation et un demi de nouveauté, en fait, où il a un peu peut-être shifté cet équilibre, et ce qui fait que c'est à la fois un gros DLC pour certains et à la fois la révolution d'une révolution, comme moi je le pense aussi, quoi.
C'est vrai. Et en plus, Tears of the Kingdom, c'est d'autant plus bizarre, c'est que ils ont peut-être gardé 50% et 50% de nouveautés, mais en coulisses on sait qu'ils ont changé le moteur, tu vois. Et c'est pour ça que en fait ils ont mis un temps équivalent à faire Tears of the Kingdom que Breath of the Wild.
Ouais.
C'est vraiment une bizarrerie, anomalie.
Mais ça qui est intéressant, et alors je termine sur cette note un peu naïve, hein, désolé, mais on en parlait avec le making of de Last of Us au début, c'est que l'industrie, d'une manière générale, elle gagnerait à dévoiler un peu plus de ses coulisses. C'est vrai que, alors le ciné, les gros blockbusters, on sait que c'est super secret, hein, les Star Wars, les Marvel et tout, mais jeux vidéo, j'ai l'impression que c'est la CIA aussi, quoi. Et vu que nous, on est tenu un peu à l'écart de la réalité d'un développement, bah, les joueurs, on peut avoir des exigences et des attentes qui sont complètement disproportionnées, en fait, et qui n'ont pas lieu d'être vu l'état de l'industrie. Et si l'industrie du jeu vidéo ouvre un petit peu plus ses portes, est un petit peu plus pédago aussi sur comment ça fonctionne, bah peut-être que ça changerait l'appréhension qu'ont les joueurs, et ça pourrait rendre service à tout le monde, en fait.
Ouais,
et c'est que les tendances vers le documentaire, quel qu'il soit, là-dessus, c'est une bonne chose, et faut aller encore plus loin là-dessus, quoi.
Bon, finissons sur du positif. En tout cas, que ça prenne cette direction, qui nous ouvre les portes, on en saura encore plus sur ce développement des AAA. J'espère que cette émission quasi dédiée à cette question, est-ce que les AAA sont en panne, je serais tenté de dire peut-être oui. On verra.
Il y a une grosse inquiétude, en tout cas.
Ouais, crise à venir, peut-être créative. Si les choses se ressemblent, on a essayé de vous donner un bout de réponse. Et dites-nous ce que vous pensez, vous, de cette industrie des AAA. Est-ce que vous êtes lassé? Est-ce que vous voyez des redits qui vous saoule, en fait? Ah, c'est toujours pareil. Voilà, on a essayé de vous dire un petit peu pourquoi. Est-ce que la semaine prochaine... Attends, non, la semaine prochaine, restez 10 minutes, 5 minutes, 30 secondes. Et on va vous dire... on va vous dire ce qui va se passer dans Red Earth la semaine prochaine. Avant, c'est l'heure de vous remercier. Merci à tous de toutes les notes. Encore plus de notes sur les plateformes d'écoute de podcast, sur YouTube, les commentaires.
Je vais voir tous les jours sur Apple Podcasts.
Et franchement, on peut pas avoir un petit objectif 200 notes. Allez,
sur Apple Podcasts, on a fait les 160 notes, là. Allez, donc c'est bien, déjà.
Faut pousser...
Objectif 200.
Let's go. Objectif 200. Ça ferait plaisir. Merci encore pour votre fidélité. Et donc, si vous nous écoutez et que vous apprenez, qu'on fait des podcasts. Là, cette semaine, il y a plein de gens. Ah, mais vous faites des podcasts? Exactement.
C'est vrai.
On fait des podcasts.
Voilà. Alors, pour ceux qui connaîtraient que les podcasts, par contre, on fait aussi des livres.
Voilà.
Donc, il faut un peu joindre les deux activités, parce que Sœur d'édition, c'est une maison d'édition qui édite des bouquins consacrés à l'analyse de la pop culture. Donc, ciné, séries, jeux, manga, animation, tout ce que vous voulez.
Littérature.
Plus de 150 livres sortis, forcément.
Et même des gros triple A, si vous voulez savoir comment ça fonctionne.
On a passé Noël, mais ça sera quand même un cadeau idéal, quel que soit le moment de l'année. Donc foncez, let's go.
Des séries comme les livres qui sont derrière nous, Resident Evil, Last of Us, Assassin's Creed, j'en passe, peut-être pas des meilleurs,
et
mais
Jean-Philippe.
Et Jean-Philippe. Il y a de tout. Il y a même du ciné, comme tu l'as dit, et des podcasts, moult podcasts, 6 formats. Voilà, j'espère que vous appréciez tous ces formats-là et que vous nous suivez. C'est vraiment cool. La semaine prochaine, on va se détendre un peu. On va parler.
Voilà, avec là aussi une émission un peu spéciale hein, qui va se consacrer à Prince of Persia, saga qui nous est chère, un jeu dans l'actu. Donc, est-ce qu'on parlerait pas à la fois de la nouveauté et à la fois un peu de l'héritage de la licence?
C'est ça.
D'hier à d'aujourd'hui, j'ai envie de dire.
Exactement, d'hier à aujourd'hui, on va faire une émission dédiée à Prince of Persia, mais format Red Alert, vous inquiétez pas.
Après, on peut déjà vous dire que le jeu, c'est une dinguerie qu'on a kiffé de ouf.
Je vais finir.
Oh, le mec,
allez, qu'est-ce qu'il y a? Allez, merci à tous. Là, il y a plus personne. Je sais que vous êtes partis.
Les cons à la fin.
Là, les gens, c'est fini Red Alert. Je m'en vais. Voilà. J'écoute même pas le programme à venir. Eh bien, bravo. Voilà, je vous dis ça. Bravo et à la semaine prochaine.
Bye bye.